Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi mi senya, omanyi kobena.
It's okay, you know, it's okay.
C'est une série d'hommages que nous allons vous proposer cette semaine dans l'épopée. Du 20 au 28 mai dernier, le festival Jazz sous les pommiers accueillait à Coutances, en Normandie, dans le nord-ouest de la France, des dizaines d'artistes venus faire scintiller les cultures internationales. Vous imaginez bien que nous avons posé nos micros là où la diaspora africaine réjouissait les spectateurs. C'est dans le cadre intime du cinéma de Coutances que nous avons retrouvé le premier de nos hôtes, le guitariste béninois Lionel Loueke, qui livrait une prestation exceptionnelle en solo, en hommage à l'un de ses héros, le célèbre Herbie Hancock. Il faut dire que depuis quelques années, Lionel Loueke est le guitariste fétiche du grand pianiste, à qui il a consacré un album sobrement intitulé HH, les initiales de l'illustre Herbie Hancock. Nous avons donc pris le temps de converser avec Lionel Loueke à Coutances, et c'est cette chaleureuse conversation que nous vous présentons aujourd'hui. Nous voici donc en compagnie de Lionel Loueke. Merci d'être avec nous.
Merci, Joe.
Vous avez une actualité riche en cette année 2022, puisque vous tournez avec l'immense Herbie Hancock tout en faisant la promotion de deux albums, HH et Close Your Eyes, qui est ressorti en 2021. Alors, procédons par ordre et parlons de HH ou HH, comme vous dites sur scène. Comment est née l'idée de ce disque en hommage à Herbie Hancock ?
Ben, ça faisait des années que je pensais à ce projet. Enfin, ça fait 15 ans que je joue avec Herbie, donc j'ai eu la chance de voir toutes ces compositions se développer chaque soir. Donc, je m'étais dit que j'allais me créer ce challenge d'essayer d'enregistrer en solo, ce qui n'est pas évident. Donc, le choix des morceaux n'était pas facile déjà, et pas simplement parce qu'il y en a, tellement, mais il fallait que je trouve les morceaux auxquels je pourrais
apporter
quelque chose, voilà. C'était le but. Ouais.
Est-ce qu'il s'agit de relectures fidèles des œuvres d'Herbie Hancock ou des adaptations très personnelles de son répertoire ?
Plutôt des adaptations personnelles. Avant d'aller en studio, il était au courant parce que je voulais avoir sa bénédiction et tout. Et il était content. Il m'a dit, tu as donné une nouvelle vie à mes anciennes compositions. Bon, les compositions sont belles. Ce qui est difficile avec les compositions de Herbie, c'est que bon, les mélodies sont tellement strong, fortes, harmoniquement aussi, donc c'est difficile d'aller chercher ailleurs, parce que à force de les jouer, tu as l'impression que ben, on ne peut plus rien faire avec, exactement.
Donc justement, comment avez-vous sélectionné les titres que vous avez remodelés sur HH? Sur quels critères finalement les avez-vous choisis?
Il n'y avait pas de critères vraiment. Je me suis fait une liste de, je crois, une trentaine. Et puis avec mon crayon, j'essayais d'éliminer au fur et à mesure. Avant d'aller en studio, j'avais déjà une idée plus ou moins sur chacune de ces compositions. Et en ne sachant pas ce que ça allait donner, parce que ça s'est vraiment développé en studio. Je voulais garder ce côté frais, même si c'est des morceaux que j'ai joués pendant longtemps.
Il n'y a pas que des tubes d'Herbie Hancock sur ce disque, même si on reconnaît très vite Rocket et Cantaloupe Island. Est-ce que vous vouliez faire découvrir d'autres aspects de sa discographie?
Absolument, surtout au niveau de ses compositions. Pour moi, Herbie, comme Wayne Shorter, je l'aimais à un niveau très haut, surtout au niveau de la composition, évidemment au niveau du jeu, mais bon, je pense que la personnalité de l'artiste aussi passe à travers ses compositions.
Ouais. Donc c'est un disque pédagogique?
Oui, mais bon, je pense que à ce niveau, les gens connaissent plus ou moins la musique de Herbie. Peut-être qu'il y a quelques morceaux sur le disque qu'ils ne connaissent pas. Ils peuvent aller écouter la version originale.
Je ne vous ai jamais posé la question. J'aimerais savoir comment vous avez rencontré Herbie Hancock.
Ah oui, j'ai rencontré Herbie en 2000, je crois. À Los Angeles, j'avais postulé pour le Thelonious Monk Institute, qui est aujourd'hui Herbie Hancock Institute. Et à l'audition, ben, il faisait partie des juges comme Wayne Shorter, Terence Blanchard, et on devait jouer devant eux, quoi. Je m'étais dit, ben voilà, tu vas te retrouver devant Herbie Hancock, Wayne Shorter, Terence Blanchard. Ils vont te demander de jouer quelque chose. Je m'étais dit, ben, il faut que tu restes toi-même. Tu n'as rien à prouver à ces messieurs-là. Tout ce que je pouvais faire, c'est être moi-même. Voilà, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Je me souviens quand j'étais rentré dans la salle, Herbie a demandé que je joue Footprints parce que j'avais envoyé sur une cassette un enregistrement de Footprints que j'avais joué en solo. Et j'ai dit, bien sûr. Et quand j'ai fini de jouer Footprints, Wayne Shorter s'est levé et il a dit, I told you guys, this is my brother. You know, I told you I'm from Africa, you know. Ouais, qui vient d'Afrique et tout. Et ils ont applaudi. Et ça m'a détendu un peu parce que, bon, j'étais assez nerveux. Ouais. Mais bon. Juste après l'audition, Herbie a dit, bah, moi, je veux bien engager Lionel directement dans mon groupe et on oublie l'école et tout, quoi. Et le directeur de l'école a dit, ah non, Herbie, non, you can't do that. Et je leur ai dit, j'aimerais bien aller avec Herbie, mais je ne me sens pas prêt. Je ne me sens pas prêt musicalement. Si je suis venu ici, c'est pour étudier. Et si Herbie peut attendre 2 ans, ça serait génial. Et c'est ce que j'ai fait. Pendant les 2 ans, après la première année, j'ai commencé à jouer avec Terence. Enfin, je me suis amélioré un peu.
Lionel Wecker, on a tout dit sur cet immense pianiste qu'est Herbie Hancock, immense compositeur également, mais j'aimerais savoir quel chef d'orchestre il est. Est-ce qu'il est très directif? Est-ce qu'il est exigeant? Est-ce qu'il vous laisse de l'espace?
Ah ouais, il nous laisse beaucoup d'espace. Beaucoup, beaucoup d'espace. Je me souviens, au tout début, premier concert avec Herbie, à la fin de chaque concert, j'allais le voir pour qu'il me donne des instructions. Est-ce que ça va? Est-ce que je peux changer quelque chose? Il disait non. Il disait à chaque fois non, non, non. Tellement j'insistais, un jour, il m'a dit man, listen, man, you know, je n'engage pas quelqu'un pour dire à la personne comment la personne doit jouer. Tu engages un musicien parce que tu aimes comment le musicien joue et tu t'adaptes. Et depuis ce jour, je n'ai plus jamais demandé à Herbie. Si tout va bien, si je pouvais. Comme je disais, ça fait plus de 15 ans que je joue avec lui, donc j'ai vu beaucoup de musiciens passer. Et il est incroyable parce qu'il s'adapte à n'importe quelle situation, quoi. Et évidemment, ça arrive sur scène qu'on se trompe ou qu'on se perd. C'est vraiment un maître parce que si tu te trompes, il ne soulève même pas la tête pour te regarder. Il reste la tête baissée sur son piano. Tu n'as même pas l'impression qu'il y a une erreur parce que tout de suite, l'erreur est fixée, quoi. Et il a toujours dit c'était comme ça avec Miles.
Humainement, il a l'air très généreux, bienveillant, ouvert aux autres. Ouais. Est-ce que vous savez ce qu'il aime dans votre jeu?
Il aime ce côté un peu fou que j'ai. J'aime bien prendre des risques. Et ça aussi, j'ai appris de lui. Même sorti de ma zone de confort, aller chercher des problèmes où il ne faut pas. Et je pense que c'est comme ça qu'on découvre. Si chaque soir, on joue les mêmes choses, alors on n'apprend rien. Et puis, on se fait plaisir. Mais bon, ouais, c'est comme quand on travaille chez soi ou son instrument, c'est très facile de se faire plaisir, quoi. T'as tes routines, t'as tes doigts qui ont des mouvements naturels qui font aussi qu'on te reconnaît. Mais essayer de sortir de ces mouvements, c'est plus difficile.
Et c'est là que ça devient intéressant.
Exactement. C'est là où se retrouver dans cette zone où personne ne sait ce qui va se passer, c'est le bonheur de cette musique.
Vous aurez 50 ans l'année prochaine.
Yes, oh, la pente descendante. Après, je demande juste à descendre tout doucement, quoi.
Qu'est-ce qui vous manque pour être comblé pleinement?
Moi, je suis heureux. Hein. Franchement, s'il y a quelque chose que j'aimerais, ça reste, c'est la santé, quoi. Parce que avec la santé, on peut tout faire. On peut vraiment continuer à développer tout ce qu'on veut dans la vie. Ouais, la santé, c'est tout. Donc, si je me souhaite quelque chose, c'est être en bonne santé encore.
En tout cas, je vous souhaite du bonheur musical pour les 50 prochaines années, Lionel
merci,
Wecky.
Merci, Dior.
Et je vais tenter quelque chose maintenant. Merci, Lionel Wecky. Apke kaka.
Apke kaka. Moussou. C'est du Mina, ça.
Exactement. Ça veut dire merci, non?
Ça a dit merci. Ouais.
Bon, je ne me suis pas trompé, alors.
Pas du tout.
Merci beaucoup, Lionel Wecky.
Merci, merci à vous. RFI, right on. See you soon.
Enregistré à Coutances en Normandie le 26 mai dernier, c'était le guitariste Lionel Wecky dans une révérence à son aîné et mentor, Herbie Hancock. Je vous informe d'ailleurs que Lionel Wecky tournera cet été en Europe avec Herbie Hancock. Ils se produiront en Angleterre, en Allemagne, en Belgique, au Danemark, en Hollande, en Italie, en Suisse, en Espagne, en Écosse, en Irlande et bien sûr en France, notamment à Reims, Vienne, Jouan-les-Pins, Marseille et Marciac. Nous y reviendrons.
Please put your hands together and warmly welcome Miss Zara McFarlane.
Il est temps maintenant de passer à la deuxième partie de l'épopée des musiques noires, l'hommage de quatre grandes chanteuses à l'une de leurs héroïnes, la très regrettée Aretha Franklin.
Bonsoir.
Little for you,
and while combing my hair.
27 mai dernier, le festival Jazz sous les pommiers invitait Robin McKell, Sandra Nkake, Alice Russell et Zara McFarlane à venir honorer la Queen of Soul sur scène à Coutances. Nous étions évidemment sur place et nous avons notamment conversé avec la généreuse Zara McFarlane. Comme je vous le précisais il y a un instant, nous allons maintenant évoquer la légendaire Aretha Franklin en compagnie de Zara McFarlane. Merci de nous accorder cette interview.
Thank you for having me.
Pourquoi avez-vous souhaité participer à cet hommage à Aretha Franklin?
Oh wow, so in 2019.
Tout a commencé en 2019, lorsque les musiciens du groupe Antibalas m'ont proposé de participer à ce projet. Ils avaient déjà donné un concert en France et un autre en Angleterre, précisément à Londres. J'étais très honorée à l'idée de prendre part à cette célébration de la grande Aretha Franklin. C'était aussi l'occasion pour moi de connaître davantage son répertoire, car en dehors des titres les plus connus, j'ai réalisé que certaines de ses chansons m'avaient échappé. J'ai de plus rencontré d'autres chanteurs et chanteuses d'horizons très divers. Et puis, cela me donne l'opportunité de découvrir cette petite ville de Normandie. Tout cela est donc très nouveau et très positif pour moi.
Comment vous répartissez-vous les chansons que vous interprétez en fonction de la tessiture, en fonction de vos goûts personnels ?
A little bit of both. So we have they had a list of songs that they were that we could choose from.
C'est un peu tout cela à la fois. Le groupe Antibalas nous a proposé une liste de chansons et nous n'avions plus qu'à piocher dedans. Pour ma part, j'ai opté pour Say a Little Prayer et pour Hello Sunshine, que je ne connaissais pas très bien. Je me suis dit, voyons ce que je peux faire de cette chanson-là.
Quelles sont les chansons les plus difficiles d'Aretha Franklin à interpréter?
Oh, there's so many. I think it's really difficult.
Il y en a tant. Je pense par exemple à Chain of Fools, mais je pourrais en citer des dizaines. Aretha Franklin avait une voix si puissante, façonnée durant son enfance dans les églises où elle interprétait des titres gospel. De plus, elle avait une tessiture assez haute et très honnêtement, il a fallu adapter la tonalité de ma voix à son répertoire. Même si j'ai une voix assez aiguë, je ne suis pas capable d'avoir une telle puissance vocale. Elle avait en elle le gospel des églises et une tessiture exceptionnelle.
Et vous, est-ce que vous venez de l'église également?
I come from a background of church, but not a gospel church.
J'ai en effet grandi dans les églises, mais il ne s'agissait pas des mêmes offices religieux. Notre gospel caribéen n'avait rien à voir avec celui que l'on entend aux États-Unis.
Black American soul, it's slightly different.
Quand et comment avez-vous découvert vous-même Aretha Franklin?
Ooh, tough question.
Voilà une question difficile. J'ai dû la voir à la télé durant mon enfance et je devais, sans m'en rendre compte, m'imprégner des classiques qu'elle avait enregistrés pour le label Atlantique. Ce son-là, celui des années 60, a une texture bien spécifique. C'est le son de Motown et du label Atlantique. Je pense donc que c'est en regardant la télévision ou en écoutant la radio que j'ai entendu pour la première fois la voix d'Aretha Franklin. Curieusement, j'ai l'impression de connaître sa voix depuis toujours.
Est-ce que vous avez le sentiment de perpétuer son œuvre en chantant son répertoire?
Ce que je veux avant toute chose, c'est pouvoir communiquer ma passion au public. Il est clair que ma voix ne sera jamais celle d'Aretha Franklin. Je n'essaye même pas de l'imiter. Je tente juste de me rapprocher, à ma façon, de son esprit soul, d'émouvoir instantanément l'auditoire. J'essaye donc de retrouver, à travers mes prestations, cette énergie qu'elle parvenait à dégager instinctivement.
Aretha Franklin était une militante pour les droits civiques. Est-ce que vous avez cet engagement citoyen en vous également?
Good question. I wouldn't consider myself to be an activist, not actively activist at all.
Bonne question. Je ne me vois pas comme une militante. En tout cas, je ne suis pas très active dans ce domaine. Je pense d'ailleurs qu'il n'est pas nécessaire d'être une activiste pour chanter les chansons d'Aretha Franklin. Si vous y regardez de plus près, vous constaterez que la plupart de ces chansons ne sont pas politiques. Elles ne font que relater le quotidien, les relations humaines, les relations amoureuses, les déceptions amoureuses, etc. Tout le monde peut se sentir concerné par ces thématiques.
Quand je parle de militantisme, je pense évidemment à Respect.
Vous savez, il y a mille manières de comprendre cette chanson. En tant que femme, pas nécessairement noire d'ailleurs, vous pouvez épouser le thème de cette chanson. Je ne vois donc pas son répertoire seulement comme un engagement citoyen. Je peux cependant concevoir que les artistes noirs, à cette époque précise, transmettaient des messages politiques dans leur musique. Cela était logique dans le contexte d'alors. Il m'arrive pour ma part de teinter certaines de mes propres compositions d'une couleur un peu plus sociale, mais je ne le fais pas de manière ostentatoire. Encore une fois, je ne suis pas une activiste.
Est-ce que le problème est le même en Angleterre qu'aux États-Unis?
Oui, je pense qu'il y a des similitudes, mais on en parle différemment. Pour faire court, je répondrai donc que le problème est le même des deux côtés de l'Atlantique. Décrire les nuances du problème racial entre nos deux continents est très difficile. Je dirais que les Américains ne craignent pas d'être ouvertement racistes, alors que les Britanniques ont une attitude plus insidieuse. Aux États-Unis, vous voyez tous les jours et sans filtre les exactions racistes de certains citoyens. Cela dit, on n'observe pas beaucoup plus de progrès non plus de ce côté de l'Atlantique, mais au moins les choses sont claires.
Why the changes are not happening, I do not know, but it's definitely clear what is happening.
Revenons à Aretha Franklin, Zahra McFarlane. Est-ce que vous avez rencontré cette grande dame?
No, I never got to meet her.
Si vous l'aviez rencontrée, que lui auriez-vous dit?
Ooh, hard question.
Question difficile.
Wow, she's been through so much in the music industry.
Elle a affronté tant d'obstacles dans l'industrie du disque. En tant que femme noire venant des églises baptistes américaines, que je ne vois pas par où commencer. Je sais qu'elle a bataillé contre sa famille pour pouvoir chanter des airs profanes, alors qu'elle devait se destiner au sacré. Je dirais donc que si j'avais aujourd'hui la possibilité de lui parler, je m'enfermerais dans une pièce avec elle et je lui poserais des tas de questions sur les moments clés de son épopée. Trop souvent, on se laisse séduire par une histoire romancée d'une artiste que l'on admire, mais il est rare de pouvoir entendre de sa propre bouche la réalité de sa destinée. Peut-être que son regard sur sa vie n'était pas uniquement tourné vers la musique.
Parlons du groupe qui vous accompagne. Est-ce que vous pouvez nous le présenter?
Antiballas est un groupe que j'ai donc rencontré en 2019 et j'ai toujours eu du mal à décrire sa musicalité. Je dirais que ses musiciens sont funky, avec une touche d'afrobeat. La danse est un élément essentiel de leur identité. Ils ont beaucoup d'énergie à dépenser sur scène et ce sont des passionnés de musique.
C'est un groupe américain qui revitalise l'afrobeat de Fela Nicola Pokuti habituellement. En cette année 2022, nous commémorons le 25e anniversaire de la disparition de Fela. Est-il une icône que vous aimeriez célébrer sur scène après Aretha Franklin?
J'adorerais ça. Je ne sais pas si vous avez vu en France la comédie musicale consacrée à Fela Kuti, mais à Londres, elle a eu beaucoup de succès. Ce spectacle narrait la vie de Fela à travers sa musique. La mise en scène était très réussie. C'est ainsi que j'ai découvert sa musique et je serais très heureuse de participer à un projet en son honneur.
Qui sont vos héros dans l'épopée des musiques noires?
Je suis une grande fan de Sarah Vaughan. Elle est l'une de mes chanteuses de jazz préférées. J'aime aussi évidemment Nina Simone, dont j'apprécie l'art de la composition et le militantisme assumé. Quand j'étais plus jeune, j'étais aussi une grande admiratrice de Lauryn Hill. Son univers musical parlait à l'adolescente que j'étais à l'époque. Et j'étais aussi une fervente groupie du chanteur Luther Vandross. J'adorais sa voix ample et riche. Je n'oublie pas ma maman, qui fut évidemment mon héroïne. De toute façon, ma famille a une place importante dans mon cœur.
My family.
Merci beaucoup, Zara McFarlane.
Thank you very much.
Enregistré le 27 mai à Coutances en Normandie, dans le nord-ouest de la France, c'était le groupe Antiballas avec Robin McHale, Sandra Nkake, Alice Russell et Zara McFarlane dans un hommage appuyé à la légendaire Aretha Franklin. Je tiens à remercier ici l'équipe du Festival Jazz sous les pommiers pour son concours toujours aussi efficace. Merci à Bertrand Éclair, sans qui vous n'auriez pas pu savourer ces échos du festival. Et mes félicitations à Nathalie Laporte pour la réalisation vivifiante de cette épopée sous les pommiers. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours, dans quelques instants, le journal.
Ladies and gentlemen.